VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. La Cour suprême pakistanaise a interdit à l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif de participer à des élections à vie. La Cour suprême avait mis fin prématurément au troisième mandat de M. Sharif à la tête du pays au mois de juillet dernier après des révélations sur de luxueux biens immobiliers détenus par sa famille via des holdings offshore. Le clan Sharif nie toute malversation et suggère que Nawaz Sharif est victime d'une conspiration ourdie par la puissante armée pakistanaise dont il est un ennemi juré. Les Occidentaux continuent d'étudier leurs options militaires pour punir le régime syrien qu'ils accusent d'avoir perpétré l'attaque chimique présumée de Douma, soucieux d'éviter une escalade avec la Russie qui brandit la menace d'une guerre en cas de frappe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devait de nouveau se réunir ce vendredi à la demande de Moscou. Le président américain Donald Trump n'avait pas encore pris de décision finale jeudi quant au déclenchement de frappes pour punir Damas, selon sa porte-parole. Pour Frédéric Pichon, aussi auteur des ouvrages « Syrie, une guerre pour rien », pourquoi l'Occident s'est trompé ? La solution à la tragédie syrienne serait de laisser l'État syrien gagner la guerre.
Quel que soit le résultat des frappes qui vont avoir lieu et qui, à mon avis, ne vont rien changer de toute façon au cours de la guerre, il faut admettre que, d'une certaine manière, la stabilité de la région et la stabilité de la Syrie est prioritaire sur toute autre considération. Donc moi, je pense que c'est aussi choquant que ça puisse paraître. Il faut laisser Assad gagner en Syrie. Alors on va laisser Assad de côté, à la limite de l'État syrien, de manière à ce que un certain nombre d'autres problèmes soient réglés, qui est le problème des réfugiés, qui est le problème effectivement peut-être aussi de l'État islamique et des groupes terroristes dans la région qui sont prioritaires, me semble-t-il, par rapport à des objectifs qui sont actuellement des buts de guerre, qui consistent à punir. Or, punir n'a jamais été un but de guerre.
Frédéric Capuchon, chercheur français, spécialiste de la Syrie. 11 policiers ont été tués dans l'ouest de l'Afghanistan, dont 9 dans l'attaque d'un checkpoint. Les 2 autres policiers ont été tués et 4 blessés par une mine artisanale qui a explosé au passage de leur convoi alors qu'ils tentaient de porter secours à leurs collègues, assaillis pendant plusieurs heures tard jeudi soir. Ces 2 assauts sont les plus meurtriers depuis des semaines. Les talibans se préparent à lancer leur offensive de printemps qui marque généralement le début de la saison des combats à la fin de l'hiver, souvent rigoureux en Afghanistan. 25 personnes ont été tuées et 18 blessées jeudi dans un attentat à la bombe contre des funérailles de combattants irakiens tués la veille par le groupe État islamique, selon un nouveau bilan de sources policières et médicales. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis une double attaque suicide ayant fait 31 morts à Bagdad le 16 janvier dernier. L'Algérie observe un deuil national après la pire catastrophe aérienne de son histoire, la chute pour des raisons encore inconnues d'un avion militaire qui a fait 257 morts, dont certains ont pu être identifiés. Un deuil national de 3 jours a été décrété mercredi en mémoire des victimes. Aujourd'hui, la prière de l'absent sera récitée dans toutes les mosquées du pays après la grande prière hebdomadaire. Une minute de silence sera également observée avant toutes les compétitions sportives prévues en Algérie ce vendredi et demain samedi. Violence en Somalie où l'explosion d'un engin a fait au moins 4 morts lors d'un match de football. Les précisions, Lionel Gaïma.
La bombe a explosé durant un match de football entre 2 clubs de la ville de Baraoué dans la région du Bassabel. Selon Bachir Mohamed Youssouf, commissaire adjoint de la sécurité, l'engin a été placé dans la section VIP du stade et visait les autorités locales. Mais celle-ci s'était assise à différents endroits, si bien que la déflagration a touché des joueurs et des spectateurs. L'un des spectateurs pense que l'explosion a été déclenchée par télécommande. La responsabilité de l'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée. Port stratégique, Baraoué abrite également une importante base de la force de l'Union africaine. C'était aussi un bastion des islamistes d'Al-Shabaab, repris en 2014 par les troupes de l'Union africaine. En début de mois, les combattants d'Al-Shabaab ont lancé des attaques coordonnées contre 5 camps militaires dans la région. 2 visaient la force africaine à Boulamarer, ville située à 110 km au sud de Mogadiscio.
Plus de 1000 enfants ont été enlevés depuis 2013 par les djihadistes de Boko Haram au Nigeria, a annoncé l'UNICEF aujourd'hui, au moment du 4e anniversaire de l'enlèvement emblématique de Chibok. Au moins 2295 enseignants ont été tués et plus de 1400 écoles ont été détruites par Boko Haram. Selon l'UNICEF, l'insurrection de Boko Haram, qui cherche à instaurer un califat dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Nouveau gouvernement à Sierra Leone, Julius Maada Bio, le président récemment élu, a désigné 14 ministres, 12 hommes et 2 femmes. D'autres nominations sont attendues. Morgane Guiriek.
Le nouveau chef de l'État a choisi Jacob Jussou Safa comme ministre des Finances, un cadre de son parti, le SLPP, qui retrouve le pouvoir après plus de 10 ans dans l'opposition. Julius Maada Bio a confié la justice à Charles Francis Margaï, ministre dans les années 2000 et avocat de profession. Monsieur Margaï est le fils du deuxième premier ministre de l'histoire de la Sierra Leone, Albert Margaï, et le neveu du premier chef du gouvernement et père de l'indépendance en 1961 de cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest, ensanglantée par une guerre civile entre 1991 et 2002 qui a fait quelque 120 000 morts. Candidat au premier tour de l'élection présidentielle le 7 mars, il s'est rallié à Monsieur Bio. C'est dans ce contexte que le candidat malheureux à l'élection présidentielle, Samora Camara, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio. Il reproche à la Commission électorale nationale d'avoir proclamé la victoire de M. Bio sans tenir compte des irrégularités qu'il dénonce.
Un camion. Nous reviendrons dans une minute, dans quelques secondes pour la suite du journal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington. Un camion café pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. Cette initiative née dans l'État américain de la Géorgie permet aux nouveaux venus de s'adapter à la vie dans leur pays d'accueil. Le récit, Marie Benson.
Lancé à Clarkston en Géorgie, le café du réfugié est un melting pot culturel où les réfugiés améliorent leurs connaissances professionnelles tout en gagnant un salaire. Il offre aux nouveaux Américains la chance de construire une nouvelle vie. Kitty Murray, la fondatrice du café.
Je pense que les gens veulent se connaître les uns et les autres. Si on leur donne un environnement où la nourriture est bonne et s'ils se sentent en sécurité, ils relèveront le défi. Nous accueillons des personnes de différents pays et différentes religions. Il y a beaucoup de diversité.
Le concept s'est développé alors que la compagnie n'avait commencé qu'avec un seul camion café rouge. Selon Madame Murray, ceci a été une grande opportunité de faire l'expérience de la diversité.
J'ai tellement appris sur les différentes cultures. Elles sont tellement belles. Nous perdions beaucoup à ne pas apprendre à connaître ces personnes.
Ahmad Al-Zoukani a commencé à travailler au café du réfugié en 2015, 2 mois après son arrivée aux États-Unis de Syrie.
Je suis passé par beaucoup de programmes d'apprentissage et de développement de compétences. J'ai acquis beaucoup d'expérience et de savoir et j'ai appris à comprendre le fonctionnement du système américain. Un an après avoir fini le programme, j'ai commencé à travailler pour eux et partager mon expérience avec les autres.
Pour Lion Shombana, venu de la République démocratique du Congo, aider les nouveaux Américains leur apprend à avoir plus de confiance en eux et leur donne le courage de faire plus. Lion Shombana est employé au Café des Réfugiés.
I'm very glad so that I can try.
Je suis vraiment heureux de pouvoir tenter ma chance dans ce pays en tant que réfugié. Je suis ravi d'aider les autres réfugiés à s'améliorer dans leur travail et dans leur apprentissage de l'anglais. Je n'ai jamais été aussi heureux.
Le café du réfugié de Clarkson, en Géorgie, compte 60 langues et 148 nationalités. Il fait partie intégrante de la communauté, attirant des personnes de tous les milieux qui se réunissent et partagent des histoires du monde entier.
Merci Marie Benson. On finit avec la Catalogne, le candidat à la présidence. Jordi Sanchez, à qui la justice espagnole a refusé une remise en liberté pour participer à un débat sur son investiture, a dénoncé dans un entretien publié aujourd'hui l'ingérence de la Cour suprême dans la politique catalane. Dans ses réponses écrites aux questions du média en ligne, Elle Independiente, Jordi Sanchez, incarcéré depuis la mi-octobre, dénonce l'ingérence d'un juge pour empêcher à 3 reprises des candidats au droit politique intacte d'exercer leurs responsabilités. Les prochaines informations, c'est dans 50 minutes avec un nouveau journal et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi, bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.